Merci beaucoup. Donc bonsoir, merci tout d'abord à la parole de m'avoir invité, d'avoir invité Coco Pelli. Et puis merci à tous d'être là, aussi nombreux. C'est un peu intimidant, je tiens à le dire. Pardonnez. En fait, on va commencer la soirée par présenter un documentaire qui s'appelle La semence dans tous ses états, qui ouvre un peu le débat en fait et qui fait un résumé, donc ça dure 20 minutes à peu près, 23 minutes exactement. Et donc il fait un peu un paysage de ce qui se passe en France au niveau de la semence. Donc ça va me permettre après de rebondir en fait sur un travail de l'association concrètement, et donc de répondre à toutes vos questions. Je vais commencer après le documentaire par présenter Coco Pelli, donc n'hésitez pas, pour toutes les questions que vous avez, à m'interrompre, ou s'il y a des choses qui ne sont pas très claires. C'est assez difficile de parler dans une si grande assemblée, donc n'hésitez pas. Donc voilà, on peut lancer le film, et puis à tout de suite.
Chaque année, le monde végétal offre ses feuilles, ses fleurs, ses fruits et ses graines qui, à leur tour, deviendront plantes, arbustes ou arbres. L'homme a toujours profité de ce cycle d'abondance pour la culture vivrière en utilisant les graines offertes à chaque récolte. Depuis peu, ce cycle a été rompu. Plus question de faire ses propres graines. Les paysans doivent acheter les semences et renoncer à leur autonomie. Un peu partout en Europe, des collectifs citoyens se forment pour réclamer la libération des semences.
On essaye.
Des associations agissent sur le terrain, comme Longomaille, Biogerme ou Coco Pelli. Elles assurent l'échange et la conservation de variétés anciennes.
Vous y arrivez ?
Et gratuitement toute la diversité de la semence.
Ça va, là ?
Comment cela se passait il y a 50 ans, à la fois dans les champs pour les paysans, ou aussi auprès des maraîchers ou des jardiniers, dans les jardins des particuliers. À partir du moment où ils avaient accès à une semence qui était reproductible, donc il n'y avait pas de complications, puisqu'on se transmettait pratiquement la semence dans les familles ou dans les villages, on pouvait faire de l'échange, on pouvait faire du troc. Et depuis 16 000 ans ou 20 000 ans que l'agriculture existe, on a toujours fait en sorte que les semences puissent se reproduire, faire en sorte que des semences qui sont adaptées à des terroirs, à des lieux très précis, et on arrive toujours à faire ça. Et depuis quelques années, tout d'un coup, tout s'est renversé dans l'histoire, et on n'arrive qu'à avoir sur le marché, aujourd'hui, que des hybrides fins ou des clones génériques dits brevetés. Tout ça parce qu'on veut arriver à contrôler le vivant, donc contrôler ce qui se passe dans l'assiette des gens, puisque si on a conscience de cette chose très importante, de ce qui se passe dans notre assiette, que tu manges bio ou pas bio, le point de départ, c'est la semence.
À partir du moment où est arrivée la civilisation, la modernité, à ce moment-là, on a changé de paradigme, c'est-à-dire que l'argent a une énorme prépondérance, et tout ce qui est la puissance du lucre, c'est-à-dire, eh bien, finalement, c'était comment, en quelque sorte, faire du profit avec, même avec le patrimoine collectif de l'humanité qui aurait dû être un patrimoine inaliénable. Et ça a une sorte de hold-up qu'on a réalisé sur ces biens qui sont des biens communs par des corpuscules humains qui ont fait petit à petit leur propriété et ils ont donc diffusé à des fins de profit. Et pour aller plus loin, et pour arriver finalement à avoir un profit maximal, eh bien, ils ne se sont pas contentés simplement de prendre ce larcin et de le divulguer. Ils se sont mis même à le manipuler, c'est-à-dire à faire des hybrides qu'on ne peut pas reproduire, et aujourd'hui on est aux OGM, etc., de façon à investir le marché dans sa globalité par la confiscation du bien commun et la mise en dépendance donc des communautés humaines. Et cette mise en dépendance aujourd'hui atteint d'extrême parce que finalement on est en train de constater que 60% de ces semences ont déjà disparu, certaines on les a plus comme patrimoine, et c'est un drame parce que c'est quand même quelque chose qui relève d'une approche morale, une approche déontologique, une approche éthique. On n'a pas le droit, en quelque sorte, de faire de ce patrimoine collectif, qui est l'héritage de l'humanité à l'humanité, quelque chose qui disparaît pour pouvoir remplacer par des semences qu'on est obligé d'acheter et qui sont donc fabriquées spécifiquement pour faire du profit.
Le système qui contrôle aujourd'hui les semences, on va résumer de manière un peu simpliste, c'est 9 transmultinationales qui contrôlent 90% du marché de la semence mondiale, blé et riz confondus. Donc à travers les hybrides ou à travers les clones chimériques brevetés, dans le sens où tous ces brevets imposent aux gens qui achètent des semences de passer par ces grands groupes semenciers. Donc au jour d'aujourd'hui, sur la planète, si on supprime les semences hybrides F1 et les semences transgéniques, il n'y a plus rien de reproductible. Tout a été éradiqué au fil des années, puisque des grands semenciers ont été, un exemple précis en Inde de nombreuses années, donnés à la fois de la semence transgénique ou des hybrides F1 et le packaging qui va avec. On voit à quel problème le paysan indien est confronté au jour d'aujourd'hui. Donc, dans cette incapacité de pouvoir racheter de la semence pour nourrir sa famille. Où y vend un rein, où y vend un enfant, où y vend sa vie. On assiste au jour d'aujourd'hui à 35 000, 40 000, 50 000 suicides individuels ou collectifs dans les villages parce que ces paysans n'ont pas la capacité de pouvoir racheter de la semence. Donc, grand problème. Alors qu'avec des semences biologiques et reproductives, on a pu le voir encore dernièrement, ces mêmes paysans indiens sont capables sur 1,8 hectare de nourrir une famille de 15 personnes et en plus de pouvoir vendre des choses à l'extérieur pour pouvoir faire des échanges avec les matières qu'ils ne produisent pas sur leur propre ferme. Donc ce qui est important, et ce qu'on dit souvent à Cocopelli, c'est cette autonomie semencière donc permet d'avoir une sécurité alimentaire au niveau de tous ces gens, paysans, maraîchers, communautés rurales dans tout l'hémisphère sud. Et au jour d'aujourd'hui encore beaucoup plus fort, puisqu'on s'aperçoit que l'Europe de l'Est fait appel à nous. Au quotidien, on reçoit de nombreuses demandes à laquelle on ne peut pas répondre. Il y a trop de demandes. Et même en Europe de l'Est, les grands coquins sont arrivés, donc il faut qu'on soit aussi présent, même si on est tout petit sur la planète.
En résumé, sont autorisés à la culture et à la commercialisation uniquement des graines hybrides F1 ou des semences transgéniques, les fameuses OGM, toutes fabriquées par des sociétés agro-industrielles. Alors, qu'est-ce qu'un hybride F1? Qu'est-ce qu'une plante OGM? Et que se cache-t-il derrière ces concepts?
Alors, ce qu'on appelle un hybride, en fait, le terme est un petit peu ambigu parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'hybride, on pense aux semenciers. On pense aux plantes fournies par les semenciers, alors que ceux qui ont toujours fabriqué les hybrides sont les paysans, qui sont les premiers généticiens du monde. Dans la notion d'hybride, il y a une notion de brassage, de croisement. Justement, on croise. Et les paysans ont toujours fait des hybrides, dans ce sens que c'est la sélection massale. Ils voyaient une plante qui avait une propriété intéressante, une deuxième plante de la même espèce qui avait une autre propriété intéressante, et ils croisaient les deux plantes en question pour récupérer un descendant qui avait les deux propriétés réunies dans la même plante. Ça, c'était les vrais hybrides, en quelque sorte. Aujourd'hui, le terme hybride est tellement galvaudé parce qu'il est réservé, en fait, aux semences, comme je le disais, produites par les semenciers, mais qui, en fait, n'ont plus grand-chose d'hybride. Alors, c'est toujours un croisement, mais c'est un croisement entre deux plantes qui sont des clones. C'est-à-dire, en fait, des plantes qui ont un appauvrissement génétique. C'est-à-dire que chacune des plantes parentales a été obtenue par des croisements successifs avec la même plante. Et du coup, on finit par faire une sorte de consanguinité, même si ce n'est pas un terme qu'on utilise pour les plantes, on a une sorte de dégénérescence consanguine, donc on a une lignée pure génétique, donc on fait ça pour une plante parentale, on fait ça pour une deuxième plante parentale, et ces deux plantes parentales, on les croise, et ça donne ce qu'on appelle un hybride F1, qui a une sorte de vigueur juvénile, et donc qui va donner une plante extrêmement belle et productive. Mais la deuxième génération, cette plante qui va récupérer des propriétés parentales, donc de celles qui ont une dégénérescence consanguine, eh bien sera très peu productive. C'était déjà un premier moyen pour le semencier d'obliger le paysan en quelque sorte à racheter ses semences. Alors l'hybride n'est pas un OGM, c'est-à-dire qu'en fait c'est deux plantes qui sont naturellement interfécondables, sauf qu'au lieu que ce soit deux plantes repérées au hasard de leur propriété par le paysan, ce sont deux plantes qui ont été préparées par appauvrissement génétique et que ensuite on croise et qu'on appelle hybride F1. Alors, ce qu'on appelle un OGM en revanche, donc un organisme génétiquement modifié, c'est tout organisme vivant, pas seulement une plante, hein, ça peut être un animal, un végétal, un microbe, ça peut être des micro-organismes, des champignons, des animaux, dont on a modifié de façon non naturelle, c'est-à-dire par intervention de la main de l'homme, son patrimoine génétique initial, donc ses caractéristiques génétiques initiales. Alors comment les a-t-on modifiés? Ça peut être de différentes manières. Ça peut être par introduction d'un gène étranger. Un gène de bactérie dans le maïs, par exemple. Ça peut être par suppression d'un gène de l'organisme en question, un ou plusieurs gènes. Ça peut être par modification chimique d'un ou plusieurs de ces gènes, par substitution d'un ou plusieurs de ces gènes. Donc voilà ce qu'on appelle OGM. Tout ça, ce sont des organismes génétiquement modifiés. Sur le plan technique, tous ces OGM sont reconnus comme des OGM, mais pas sur le plan juridique. Sur le plan juridique, ils ne sont reconnus par la directive européenne 2018 qui légifère sur la question des OGM, ne sont reconnues que les plantes transgéniques, c'est-à-dire celles dont la modification génétique fait appel à un gène étranger. Je disais par exemple un gène de bactéries dans le maïs. Ce gène étranger, on l'appelle un transgène. Et donc l'OGM qui en résulte s'appelle un organisme transgénique. Bien, les organismes transgéniques, qui sont bien sûr des OGM, puisqu'on a modifié de façon non naturelle leurs caractéristiques génétiques initiales par addition d'un ou plusieurs gènes étrangers provenant d'une autre espèce, eh bien, sont reconnus également comme des OGM sur le plan juridique. Mais tous les autres OGM, donc, qui résultent d'une modification génétique qui ne fait pas appel à un gène étranger, donc qui ne sont pas transgéniques, eh bien, bien qu'étant reconnus techniquement comme des OGM, ne le sont pas sur le plan juridique et du coup échappent au champ d'application de la directive européenne. C'est par exemple le cas des plantes mutées, c'est-à-dire obtenues par une technique qui s'appelle la mutagénèse, donc qui n'est pas la transgénèse, et qui consiste à exposer les graines de la plante à un traitement chimique ou un traitement physique qui va provoquer des modifications de la formulation chimique des gènes. Et comme les gènes détiennent le secret de fabrication des protéines, qui sont les acteurs de tous les processus biologiques qui ont lieu dans les cellules des organismes vivants, eh bien les gènes qui ont subi ces modifications chimiques vont donner naissance à des protéines qui sont elles-mêmes chimiquement modifiées et qui vont avoir des nouvelles propriétés, conférant à la plante des nouvelles caractéristiques, comme par exemple la tolérance à un herbicide. Sur la propriété des semences, je disais tout à l'heure qu'avec les hybrides F1, c'était déjà un premier moyen pour le semencier de mettre une mainmise sur les semences, parce qu'en fait, si le paysan veut replanter une partie de sa récolte, eh bien, la deuxième génération, les productions sont extrêmement faibles, donc du coup ça l'obligeait déjà en quelque sorte à racheter ses semences chaque année. Avec l'OGM, il y a une dimension supplémentaire qui est en fait une stérilité juridique. Je parle pas de stérilité biologique, les plantes OGM cultivées aujourd'hui ne sont pas stériles biologiquement, même s'il y a eu des tentatives en ce sens de la part des semenciers, avec notamment le maïs terminateur, mais les OGM cultivés actuellement dans le monde ne sont pas stériles sur le plan biologique, mais je parle de stérilité juridique en ce sens que si l'agriculteur s'aventurait à vouloir replanter une partie des semences de sa culture OGM de l'année passée, eh bien il s'expose à des poursuites judiciaires pour violation de brevet. Voilà, donc c'est vraiment pour le semencier une manière de mettre la ceinture et les bretelles en termes d'appropriation de la semence et de confiscation de la semence du paysan. Donc moi, en tant que scientifique, si je suis conscient de ces aspects-là, je ne peux pas non plus faire l'économie de l'aspect purement technique et de l'aspect purement sanitaire et environnemental. Parce qu'il y a bien sûr des risques de cet ordre-là également. C'est que la technologie OGM, quelle qu'elle soit, que ce soit transgénèse, mutagénèse, etc., c'est une technique totalement aléatoire. Et notamment en termes de risques sanitaires, c'est d'autant plus inquiétant que la quasi-totalité des plantes génétiquement modifiées cultivées aujourd'hui à la surface de la planète sont des plantes pesticides, c'est-à-dire des plantes qui ont été génétiquement modifiées pour accumuler un pesticide, soit parce qu'elles produisent un insecticide en permanence pour lutter contre un insecte ravageur, c'est le cas du Monsanto 810 qui fait l'actualité en France et en Europe, soit parce qu'elles ont été génétiquement modifiées pour ne plus mourir quand on les arrose avec un herbicide pour les tuer, par exemple le Roundup, et donc ces plantes vont pouvoir accumuler cet herbicide dans leurs cellules. Et donc la moindre des choses serait que ces plantes soient effectivement évaluées comme des plantes, ça elles le sont, mais qu'elles soient aussi évaluées comme des pesticides, et là on est loin du compte, parce que les pesticides qui sont déjà bien insuffisamment évalués, sont au moins évalués pendant 3 mois sur 3 espèces animales différentes, dont le rat et la souris, le troisième n'étant pas un rongeur, plus des tests à 2 ans sur le rat, en plus des tests à 3 mois. Eh bien, il n'y a aucune plante OGM pesticide qui n'a fait l'objet d'évaluation toxicologique, car je parle bien d'évaluation toxicologique et pas nutritionnelle, de tests toxicologiques, c'est-à-dire avec analyse de sang, etc., chez les animaux qui ont été nourris avec cette plante, à plus de 3 mois sur une seule espèce animale. C'est-à-dire qu'on passe systématiquement à côté des éventuels effets chroniques. Et en plus, bon, cerise sur le gâteau, pour des raisons de protection industrielle, ces tests sont faits par des laboratoires choisis par les firmes semencières, ce qui rend l'évaluation, en plus d'être carencée, totalement opaque.
Vous pouvez dormir tranquille, vous pouvez consommer tranquille, vous pouvez travailler tranquille.
Merci, pas trop bon.
Tout à fait, ça va vraiment très content. Il y a une espèce d'émancipation dans notre secteur assez incroyable. Mais bien sûr, viens nous rejoindre. Nous sommes ravis.
Les paysans du monde veulent nos semences. Ils veulent acheter, ils veulent produire.
Nous avons un souci constant pour les réglementations et donc nous voulons préserver les semences, les mettre dans un petit cahier, arrêter la naïveté des peuples, tout ça.
À une procédure d'inscription obligatoire sur un registre officiel, qu'on appelle le catalogue officiel. Alors, il y a plusieurs problèmes autour de cet enregistrement obligatoire. Le premier, c'est un problème de procédure essentiellement, puisque les semences sont soumises à une procédure d'enregistrement préalable, donc d'autorisation préalable de mise sur le marché, un peu comme les médicaments et les pesticides. Alors si on comprend bien pourquoi les médicaments et les pesticides sont soumis à un régime d'autorisation préalable comme ça, c'est parce qu'ils sont porteurs de risques pour la santé ou pour l'environnement. Avec les semences, le sujet est très différent, puisque la législation ne fait jamais référence à un quelconque risque sanitaire ou environnemental les concernant. Or pourtant, on est soumis à un régime d'autorisation préalable de mise sur le marché, qui donc est disproportionné. Ensuite, en ce qui concerne toujours l'enregistrement de ces semences, elles doivent répondre à des critères pour l'inscription au catalogue. Et ces critères servent à un objectif qui a été défini dans les années 60 comme étant un objectif d'intérêt général, auquel la législation se réfère sous l'expression progrès génétique. Donc le progrès génétique défini dans les années 60, il correspondait finalement à un objectif de sortie finalement de l'agriculture européenne de son arriération et de manière à ce que finalement elle suive un peu le modèle américain. Donc les objectifs que servent ces critères d'inscription au catalogue sont ceux de l'agriculture industrielle. Donc ce catalogue officiel qui a été mis en place a conduit progressivement à la disparition de la biodiversité agricole. Ensuite, le dernier problème, c'est qu'il y a eu progressivement une superposition de la législation sur le commerce des semences avec la législation sur l'octroi de droits de propriété intellectuelle sur les semences. Et les critères d'inscription au catalogue, aujourd'hui, sont les mêmes que les critères d'octroi d'un droit de propriété intellectuelle sur les semences. Et la conséquence de ça, c'est finalement que les seules semences qui sont autorisées à la vente sont les semences qui sont protégées par un droit de propriété intellectuelle. Et tout le domaine public, le domaine de la propriété de tous finalement, ou de l'absence d'appropriation, a été rendu illégal. Ce qui est extrêmement choquant et qu'on ne voit dans aucun autre secteur de l'économie.
Aujourd'hui, en pleine conscience et en France, la semence est sous séquestre. Complètement sous séquestre. Les grands coquins se sont appropriés, se sont accaparés la semence. Un maraîcher, un paysan, ne peut pas réutiliser sa propre semence. Il est obligé de passer par des coopératives, par des marchands qui leur vendent de la semence ou hybride ou des clones chimériques.
Les semences font partie de la problématique de l'alimentation. Mais globalement, quand on voit que les terres sont détériorées, que l'eau, qui est une nourriture, est polluée, que les semences disparaissent, qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, qu'on désorganise des systèmes vernaculaires, par exemple dans les pays du Sud, migration vers les villes, etc., nous prenons le risque d'une pénurie mondiale sans précédent. Et cette pénurie mondiale sans précédent est aggravée aujourd'hui par le fait qu'on entre dans une phase où les conditions climatiques sont totalement aléatoires et imprévisibles. Et de fait, imaginez simplement à un moment, il y a tous les bassins mondiaux producteurs de céréales, prenons la céréale comme base de l'alimentation, entre sécheresse et inondation, il n'y a pas de récolte. Et bien, c'est la famine immédiate. Et les semences, si les semences adaptées, qui résistent, disparaissent, remplacées par des semences artificielles inadaptées, qui est fragile, eh bien, si on met tous ces paramètres les uns derrière les autres, on peut dire qu'il risque d'y avoir, à ce moment-là, une combinatoire, c'est une conjonction de différents éléments négatifs, au cœur duquel sera la semence. Et ça, déjà maintenant, on est très inquiet par rapport à comment on va faire pour la suite. Si c'est des laboratoires qui fabriquent les semences, si ces laboratoires fonctionnent avec du pétrole, enfin, etc. Donc aujourd'hui, nous jouons une carte très, très grave, très sérieuse. Et il faut vraiment que les gens prennent conscience. Plus que jamais, il faut protéger les sols, il faut protéger les semences. Il faut au contraire beaucoup plus d'agriculteurs, parce qu'on ne peut pas imaginer des millions de gens concentrés dans les villes avec quelques agriculteurs qui les nourrissent. Ben, ça veut dire qu'il faut que la conscience s'élève. Et je n'aime pas trop le prise de conscience, ça me rappelle l'électricité. Enfin, est-ce que vous avez une prise de conscience? Non, c'est pas une prise de conscience, c'est une élévation de la conscience qui fait que... Et qu'est-ce que c'est que l'élévation? Plus vous vous élevez, plus vous voyez la configuration du paysage devient beaucoup plus intelligible. Ça procède de la même façon, on s'élève et on voit plus clair. Parce que notre conscience s'est élevée. Si la conscience s'élève, bien, le monde changera.
Je vais commencer par vous faire un petit historique de Cocopelli. Donc Cocopelli, ça fait maintenant 15 ans que l'association a été créée, donc à peu près, ça a été créé exactement le 28 avril 99, et en fait ça faisait suite à Terre de Semences, et Terre de Semences faisait suite en fait au laboratoire d'Eva. Dominique Guillet, qui a créé Cocopelli, a commencé en fait dans les médecines douces avec les fleurs de Bac. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent les fleurs de Bac. Et en fait il s'est rendu compte petit à petit que c'était pas la peine d'essayer de soigner les gens, même avec des médecines douces, si à la base le problème était l'alimentation. Donc évidemment il fallait tout d'abord se reporter sur l'alimentation, et comme c'est très bien expliqué dans le film, la base de l'alimentation c'est la semence, donc c'était logique de partir en fait pour la défense de la biodiversité semencière, donc pour garder vraiment ce patrimoine végétal qu'on perd depuis l'après-guerre. Donc voilà, Cocopelli, ça fait 15 ans qu'on maintient notre gamme de semences. Donc là, maintenant, en 2014, on a 8500 adhérents. Voilà, bientôt 9000, on espère. Voilà, donc on maintient une gamme de plantes potagères de 2700 variétés à peu près. Donc en collection vivante, ça veut dire que vraiment ces variétés tournent dans les jardins. Donc pour nous, cet aspect vivant est très important. Donc on n'a pas, voilà, on maintient quelques souches en congélateur, etc. Mais on essaye vraiment d'amener le plus de biodiversité possible dans les jardins. Le but de Cocopelli, c'est de ramener vraiment l'autonomie semencière dans les jardins familiaux, pour en fait trouver une solution un peu au problème qui a été exposé dans le film. On voit bien à l'heure actuelle que les monocultures, que les grandes cultures, en règle générale, ne sont pas une solution pour résoudre le problème de la faim dans le monde, on va dire, pour faire un raccourci. On voit bien que plus on amène de nouvelles technologies au niveau de la semence, au niveau des intrants, au niveau des OGM, etc., plus on va dans cette direction-là, plus le problème s'aggrave, en fait. Donc pour nous, c'est vraiment important de ramener de la vraie semence libre et reproductible. Le film a été fait il y a quand même un petit moment, donc il y a eu pas mal d'évolutions en fait par rapport à tout ça. On se rend compte que c'est une assez bonne nouvelle. En France, en Europe et un peu partout dans le monde, il y a beaucoup d'associations, dont Passgrain par exemple, qui maintient ce patrimoine. Donc en plus de Cocopelli, ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Il y a 15 ans, il y avait très peu d'associations, en fait, il y avait très peu de monde pour maintenir ces variétés. Donc maintenant, il y a énormément de monde, mais maintenant, le principal problème, en fait, comme c'est aussi expliqué dans le film, c'est la perte de matière fertile, en fait, la perte de sol, due à ces quantités aberrantes d'intrants qu'on apporte avec l'agriculture intensive, mais aussi dans les jardins amateurs, en fait, parce que le chiffre, je crois que c'est à peu près 4% des produits de synthèse sont utilisés dans les jardins amateurs. Donc à l'échelle de ce qui est distribué, c'est en fait monstrueux. Donc le but de Cocopelli, c'est aussi de ramener un certain savoir par rapport à des techniques beaucoup plus bas, des techniques normales, quoi, des techniques strictement naturelles. Pour partir sur la semence, en fait, il faut bien comprendre que les hybrides qui sont cités ici ont un spectre génétique qui est très très réduit. Et du coup, les anciennes variétés, en fait, ont un spectre génétique tellement élargi qu'elles sont beaucoup plus résistantes à tout un tas de pathologies, elles sont plus résistantes aux ravageurs, etc. Donc on voit bien qu'en fait, les semences qu'on propose, qu'on essaye de réintroduire, sont beaucoup plus productives à long terme, et évidemment meilleur pour la santé. Donc voilà un peu les grandes lignes des combats de Cocopelli. Cocopelli fonctionne de trois manières pour entrer un peu dans le pratique. On fait de la commercialisation de semences, donc libre de droit reproductible, en toute illégalité, entre parenthèses, sur Internet, sur les foires, etc. On a un assez gros secteur de parrain-marraine, ça veut dire que certains de nos adhérents reproduisent de la semence pour Cocopelli. Cette semence n'est pas remise évidemment sur le marché, mais est redistribuée à d'autres adhérents ou envoyée par le biais de notre campagne Semences sans frontières dans les pays de l'hémisphère sud, dans les pays les plus pauvres. On envoie à peu près 200 colis tous les ans par le biais de notre campagne Semences sans frontières. Donc dans ces colis, on envoie aussi de la documentation technique. Donc le but étant de réapprendre en fait aux communautés rurales à refaire leurs semences. Il faut bien se rendre compte que encore une fois, comme c'est expliqué dans le film, c'est les OGM et les UNF1 sont partout sur la planète. En Europe ou dans les pays occidentaux, on a la chance d'avoir un certain accès au savoir, accès à l'information, ce qui n'est pas du tout le cas si vous allez dans les montagnes des Andes, au fin fond de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Asie, où voilà, on a l'exemple de l'Inde. L'exemple de l'Inde, c'est le plus flagrant. Après la révolution verte, il faut être conscient que on a fait beaucoup d'éloges en fait de la révolution verte passée une époque, alors que c'était un fiasco total pour les pays d'Asie. L'Inde est passée de 14 tonnes de riz à l'hectare à 500 kg. Donc en fait on leur a introduit des variétés hybrides, des variétés OGM à courte paille, donc plus de biomasse. On a complètement cassé le circuit en fait en place depuis le début de l'agriculture en Asie pour leur amener des variétés strictement mauvaise, quoi, strictement dégénérescente. Et ce qui est assez, significatif, c'est que ces suicides de paysans indiens dont on parle dans le film, la plupart du temps, les paysans indiens buvaient un litre de Roundup pour mettre fin à leur jour, pour vraiment appuyer sur la signification de ce qui se passait chez eux, parce que c'est vraiment une mainmise. Une fois qu'on a amené des variétés OGM dans un pays qui n'a pas, on va dire, l'accès au savoir suffisant pour se défendre de cette mainmise, une fois que la mainmise y est, on ne peut quasiment plus rien faire. Parce qu'en fait, les variétés, disons qu'ils étaient souvent en flux tendu au niveau de la semence. Donc, il suffit qu'on casse le cycle sur une saison pour que toutes les variétés soient perdues. Et c'est ce qui s'est passé typiquement en Inde avec la Révolution verte. Moi, j'ai été au Guatemala où on marchait 3-4 heures dans les montagnes. On allait loin dans des vallées. En s'attendant à trouver des anciennes variétés de maïs, de pommes de terre, etc. Rien du tout. Rien du tout. Ils y sont allés avant nous et les variétés OGM y sont. Et ils ont des maïs qui montent à 5 mètres avec pas un seul épi dessus. Enfin, on voit un peu partout sur la planète les aberrations de cette agriculture. Et c'est pour ça qu'on est... qu'on se bat vraiment pour réintroduire des vraies variétés. C'est vraiment notre objectif, et c'est très très important parce que si en France tout est un peu derrière un rideau de fumée, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. Il faut aller en Amérique latine, il faut aller en Afrique, voir les gamins mourir parce qu'ils ont volé une tomate dans un champ imbibé de pesticides, parce qu'ils cultivent les tomates comme le riz, et puis ils vident les bidons d'intrants chimiques à l'entrée des rivières. En fait, ils détournent les rivières pour inonder les champs, et on les voit vider les bidons, etc. Mais on a filmé tout ça pour le film qu'on a fait sur les abeilles, le Titanic apicole. Il faut voir ça pour le croire. En France, on ne se rend pas du tout compte du drame de l'agriculture industrielle. Il faut se rendre compte que c'est nous qui mangeons ces tomates qui sont produites en Afrique dans ces conditions-là, parce que tout ça, ça part à l'export pour les conserves, etc. Donc en fait, on est un peu tous responsables dans les pays occidentaux de ce qui se passe dans les pays pauvres au niveau de l'agriculture, et c'est un génocide terrible. C'est pour ça qu'on fait des doubles fonds dans nos valises, dans les sacs de couchage, etc. Et on emmène des semences. Parce que c'est strictement illégal. Donc quand on se fait attraper, c'est pas très grave, mais ils prennent toutes les semences. Et c'est détruit systématiquement. Ça fait des années qu'ils s'appliquent à affamer les pays pauvres. Et nous, on réintroduit des vraies semences. Et en plus, on leur ramène le savoir. Alors c'est très très dur. Parce que quand vous avez une vallée qui est infestée de maïs OGM, quand vous arrivez avec vos anciennes variétés, c'est quasiment un combat perdu d'avance, évidemment, hein, parce que quand nous, on arrive après un désastre comme Haïti ou comme le tsunami en Inde, on arrive avec nos petits colis de semences, on a des énormes multinationales qui arrivent avec des semis remorques de maïs, de blé, de riz, etc., et qui en profitent encore une fois pour inonder, sous couvert d'actions humanitaires, avec la Croix-Rouge, avec les médecins du monde, etc. Ils amènent des énormes quantités encore d'OGM, et à chaque fois, ils en rajoutent une couche. Donc c'est très très dur d'intervenir, mais voilà, on fait ce qu'on peut. On a énormément d'adhérents qui partent quasiment tous les mois avec un colis de semences sur tel endroit de la planète. Donc voilà, ça c'est vraiment l'aspect militant de Cocopelli, et c'est ce qui nous fait vivre tous les jours. La partie commercialisation de semences en Europe, c'est vraiment pour faire fonctionner tout ce système là mais c'est très important quand même, parce que on est malgré tout une des seules organisations européennes, avec l'Arche de Noé et avec quelques autres organisations, à avoir une telle gamme en fait disponible à proposer. Et des variétés, on n'a évidemment aucun hybride F1 et que des variétés qui sont strictement libres. C'est-à-dire que vous avez le droit de refaire votre semence. Parce que là, Jocelyn, ce qu'il dit à la fin du film, enfin c'est schématisé, parce que les agriculteurs ont le droit de refaire leur semence à partir du moment où ils utilisent une variété libre. En fait, le problème, c'est que les variétés libres sont strictement inaccessibles. Parce que vous n'allez pas aller à la COP du coin, à la coopérative agricole, et demander quelques quintaux de maïs d'ancienne variété. Enfin, le mec va vous prendre pour un fou, évidemment, ça n'existe pas. Donc en fait, ils ont le choix de le faire, et c'est ce que les gens du GNIS ont tendance à nous répondre quand on fait des émissions radio avec eux. Ils disent, mais non, où est le problème? Évidemment que les agriculteurs ont le droit de refaire le semence. Oui, ils ont le droit, il n'y a pas de semence. Donc,
monsieur, ça. Je suis agriculteur, je suis d'accord par les choses qui ont été dites.
Sur ce micro,
ici,
micro,
c'est on a le droit de refaire ses semences.
Oui, oui, bien sûr. Mais à partir du moment...
Je suis céréalier, je suis les trois quarts de mon exploitation. Évidemment, Le maïs, oui, c'est
le maïs. Micro, s'il vous plaît, on n'entend pas.
Il ne faut pas l'éviter, ça n'ira pas jusque là-bas. Les trois quarts de mon exploitation, je fais mes propres semences.
Mais avec quelle semence en fait?
Donc, on achète des variétés qui ont été produites par les semenciers, et on peut se les. Comme ce n'est pas des F1, on se fait ces semences. Ça, c'est quand même pas vrai ce que vous dites.
Disons qu'en fait, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect hybride F1 qui va être dégénérescent, donc là, c'est pas une question de brevet. Mais...
Je suis d'accord avec vous qu'on va vers ça et que c'est grave. Qu'on va vers la F1. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Ce qui me gêne un peu, c'est que vous ne faites pas... C'est quand même important qu'il y ait des gens qui fassent la recherche sur les variétés.
Bien sûr.
Les grandes cultures.
Non, mais là, j'allais y venir. En fait, ça, c'est le problème des séances.
C'est la mauvaise main aujourd'hui, mais la recherche, il faudrait qu'elle se fasse, qu'il y ait de nouvelles variétés de créer, parce que c'est très important. C'est très important.
Le problème étant que la recherche va dans le mauvais sens, mais ça c'est un autre sujet, mais quoi, non, c'est totalement le sujet en fait. Là vous me parlez de vous reproduisez des semences dans votre champ, mais c'est pas forcément des hybrides F1, c'est pas pour ça que vous avez le droit de les refaire. Si ces semences-là sont sous obtention, donc sous certificat d'obtention végétale, vous devez de payer une sorte de royalties en fait à l'obtenteur, ce qui est dans la logique de la recherche normale. Parce que si vous avez une multinationale ou n'importe quelle entreprise qui met des milliards dans la recherche pour payer des chercheurs, etc., bon, ces chercheurs, il faut qu'ils les payent. Je ne suis pas d'accord avec ce système. Mais dans une logique mercantile, effectivement, quand vous organisez une soirée et que vous diffusez de la musique qui est avec des droits SACEM, vous payez des droits à la SACEM. Donc là, au niveau de la semence, on est exactement dans le même cas. C'est-à-dire que des entreprises ont payé des chercheurs pour sélectionner des variétés qui vont dans tel ou tel sens. Dans la logique, il est normal que l'utilisateur de la variété paye des royalties. Donc normalement, c'est votre cas. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne connais aucune variété de grande culture qui soit sur le blé, pourquoi pas, il doit y en avoir une ou deux, mais à l'heure actuelle en France, je ne connais aucune variété de grande culture qui soit librement reproductible par le paysan. Ça serait, si c'était le cas, il n'y aurait pas tout.
Moi j'ai rencontré des gens en Dordogne, de la plateforme bio de Dordogne, qui sont membres de du regroupement du réseau Semences Paysannes, et ils font un travail justement de recherche, de création de variétés, depuis plusieurs années. Ils ont édité un catalogue, et je pense qu'il y a des gens qui font ce travail de recherche, mais pas forcément dans une optique scientiste, dans une optique d'agriculteur, qui est un peu différent. Et je voudrais aussi insister sur le fait qu'il n'y a pas que Copelli qui a cette démarche, et qu'il y a quand même tous les autres agriculteurs ou semenciers français, souvent bio, qui sont regroupés dans le réseau Semences Paysannes et qui font le même type de travail, quoi. Mais, et qui le font collectivement. Et moi, j'aimerais bien savoir pourquoi Cocopelli est très fort dans la communication, veut être mondialement connu, effectivement. Mais moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est l'image, justement, qui passe par cette communication. La première fois que j'ai vu Cocopelli, c'était dans des foires aux plantes très mondaines dans la région parisienne. Ça me gênait un petit peu, quoi, et je trouve qu'il y a une très bonne com et pas beaucoup de collaboration avec les autres associations qui semblent avoir les mêmes objectifs.
Entre parenthèses, la foire mondiale nous y était aussi. Non, je ne cherche pas la polémique.
Bien sûr, mais...
C'est effectivement une critique qu'on fait souvent à Cocopelli, de ne pas avoir l'impression que Cocopelli travaille avec les associations locales.
Oui.
On l'entend tous les jours. On change de sujet, mais je peux m'expliquer quand même.
Peut-être serait-il intéressant de laisser continuer le développement, et ensuite on pourrait prendre des questions, parce qu'autrement ça va partir dans tous les sens, et on va perdre un petit peu le fil de la... Ok. Alors, vous répondez peut-être à madame, et ensuite... Vous reprenez votre fil, ça ne vous dérange pas comme ça?
Pas de soucis.
Parfait. Oups.
Pour ce qui est du... je vais repartir juste sur la première partie de la... Enfin non, je vais quand même finir sur ta question par rapport aux autres associations. En fait, on envoie des centaines de colis sur toute la France, en plus des pays pauvres, pour soutenir énormément d'associations qui font de la préservation de semences, etc. en France. Enfin, on est fort en communication, oui et non, en fait. La plupart de la communication de Coco Belli, c'est moi qui l'a fait, sur le site internet, sur les machins, on est partout à la fois. On n'est pas une multinationale, on n'a personne à la communication, on n'a pas de gestionnaire commercial, on fonctionne quand même de manière assez archaïque. On est une petite association. On est mondialement connu. Pourquoi ? Parce qu'on est partout sur la planète. Parce qu'en fait, on amène des semences, comme j'ai dit, partout sur la planète. Qu'on a une antenne au Costa Rica, qu'on a une antenne en Inde, et qu'en fait, on est connu comme le loup blanc en Amérique latine. Pourquoi ? Parce qu'on est les seuls à avoir, à part Via Campesina, on est les seuls à avoir réintroduit des semences en Amérique latine perdues. Donc, les Français ont la critique facile. Allons voir un peu partout ce qui se passe sur la planète et on se rendra compte qu'on travaille exclusivement avec des petites associations qui travaillent comme nous. Pour ta première partie de la question, effectivement, il y a plein d'agriculteurs qui font partie du réseau de semences paysannes qui travaillent sur les blés. Mais là, moi je parle de globalité mondiale de l'agriculture et c'est anecdotique.
À la même échelle, c'est évident.
Anecdotique. Très très important, mais anecdotique par rapport aux millions d'hectares de grandes cultures qui tentent de nourrir la planète. Et c'est de ça dont on parle. Évidemment, il y a plein d'initiatives partout sur la planète, comme tu cites, qui travaillent sur les blés, qui travaillent sur les maïs, qui travaillent sur les aliments de base. Donc voilà, ça c'est pour répondre, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais effectivement...
C'est important de dire que c'est une échelle, mais... Ouais. Mais c'est... Pourquoi c'est pas fait ?
Voilà. Mais nous, on ne travaille pas sur ces variétés-là, on est d'accord, Coco Belli travaille sur les variétés qui sont potagères. On a des blés, on a des maïs, on a ces variétés-là, mais pour nous... Enfin, on ne fait pas ce travail que fait le RSP sur les grandes cultures. On fait un travail au sein des potagers. Pour nous, ce qui est important, c'est l'autonomie familiale. Ça veut dire qu'il y a un partage au niveau des familles, des micro-communautés et tout, pourquoi pas, mais vraiment à petite échelle. Et nous, c'est ce qu'on essaye de réintroduire. Et c'est pour ça qu'on distribue des fiches techniques un peu partout dans la reproduction de semences, qu'on a un pavé, un livre comme ça sur la reproduction de semences, etc. Donc c'est ça qu'on essaye d'apporter. Après, Coco Belli a besoin aussi de payer ses 20 salariés, il a besoin d'être dans ce système-là, comme j'expliquais tout à l'heure, pour vraiment faire fonctionner l'outil de travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour me lancer là, j'ai perdu le fil.
Et au niveau de l'illégalité, là, qu'est-ce qui est illégal ?
Voilà, là, c'est très bien comme question, parce qu'il y a... On amalgame un peu tout, on confond les OGM, les hybrides, les variétés sous obtention, etc. Tout est très différent. En ce moment, il y a un gros débat autour des COV, des certificats d'obtention végétale, parce qu'on a décidé de resserrer un peu les vis là sur les fraudes, parce que énormément de gens comme monsieur refont leurs semences à partir de variétés où théoriquement, ils n'auraient pas le droit de faire. Et à mon avis, c'est votre cas. Je ne sais pas, je ne connais pas les variétés, mais à mon avis, c'est votre cas. Et c'est le cas, en fait, de milliers d'agriculteurs en France. Et en fait, ce qui fait polémique en ce moment, et on a eu France 3 qui est venu à Coco Belli la dernière fois nous interviewer là-dessus, en disant la réforme sur les COV, qu'est-ce qui se passe, vous allez couler à cause de cette réforme. C'est pas du tout le cas. Toutes les associations comme Coco Belli, comme Falstein, comme le RSP, sur certaines de leurs variétés, j'insiste, sont hors cadre de COV, parce qu'on utilise des variétés libres, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc en fait, qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui n'est pas, utiliser des variétés libres de droit qui appartiennent au domaine public, c'est légal. Nous, en fait, on est dans l'illégalité parce qu'on est dans un système marchand. Parce qu'on commercialise des semences via notre site internet, via les salons, etc., qui sont non inscrites au catalogue officiel du CNIS. Et ça, effectivement, c'est strictement illégal. Parce qu'on a le droit de commercialiser uniquement des variétés inscrites au catalogue pour la sécurité du consommateur et toutes les salades qu'on nous sort continuellement.
Qu'est-ce qui vous empêche de les inscrire ?
L'éthique. Premier point. Deuxième point, la DHS. Détermination, homogénéité, stabilité, il me semble que je dis pas de bêtises, c'est ça, DHS, donc ça veut dire qu'en fait, quasiment seuls les hybrides F1 peuvent répondre à ce critère-là. Après, il y a le coût, c'est 1200 et quelques par variété pour les inscrire. Mais enfin, selon nous, pourquoi, enfin, on n'a pas un catalogue des boulons ou un catalogue des vis, pourquoi est-ce qu'on aurait un catalogue des semences? En plus, c'est vivant, donc comment est-ce que vous pouvez breveter du vivant? Il n'y a que vraiment un OGM qui soit strictement stable, qui puisse être techniquement breveté, Et encore, comme l'explique Christian Bello, ça va forcément bouger. Enfin, normalement, ça ne devrait pas être profitable. Donc pour nous, cette simple question-là est en fait une aberration. On n'inscrit pas un point, c'est tout. Et on refuse de rentrer dans ce système-là. Donc tant qu'on nous place dans l'illégalité, on reste dans l'illégalité, on y est très bien. Bah oui, c'est très important d'être dans l'illégalité en fait sur ces sujets-là, parce que ça fait prendre conscience aux gens aussi que ce problème existe, et c'est un problème qui a été depuis longtemps complètement ignoré. Qui contrôle la semence contrôle le monde, c'est la base de la chaîne alimentaire. Donc les multinationales l'ont compris depuis bien longtemps. Depuis l'après-guerre, on est dans une agriculture de combat, dans une agriculture de mort. Il faut bien se remémorer que les premiers insecticides qui ont été utilisés contre les doryphores après la dernière guerre étaient les gaz moutarde recyclés de la guerre, quoi. Donc, on est parti. Et les tracteurs, qu'est-ce que c'est? C'est la mécanique des tanks qui a été recyclée. Donc, si on regarde un peu en profondeur, on a recyclé la guerre, hein, on est parti en guerre en agriculture, quoi, parce que c'est vraiment ça. On passe notre temps à essayer d'éliminer les mauvaises herbes, d'éliminer les ravageurs, d'éliminer les pathologies, toujours, toujours, toujours plus, d'éliminer, on retourne le sol, on retourne le sol, on retourne le sol. Enfin, on est rentré dans une démarche au niveau de l'agriculture qui est dramatique, dramatique. C'est 2500 tonnes d'humus qui s'en vont en érosion toutes les heures sur cette planète. Si ça continue en 2050, il n'y a plus rien. Vous allez en Picardie, vous allez dans la Beauce, vous allez dans la Creuse, le sol, c'est du béton. Il n'y a plus rien. Le sol sert de substrat. Si les plantes survivent, c'est grâce à l'azote, grâce aux quantités d'intrants qu'on apporte. Sinon, ça ne marche pas. Donc en fait, on est dans une agriculture qui est strictement à 100% dépendante des énergies fossiles. On met de l'essence dans les tracteurs. On ne va pas calculer combien d'énergie fossile et d'énergie nucléaire a coûté le tracteur à sa fabrication. Les tonnes d'intrants sont en fait tous des dérivés du pétrole. Donc on met en plus du pétrole dans les champs. Il y a toute la transformation après. Il y a tout, on est dans un cycle. Enfin, imaginons que le pétrole s'écroule demain. Ça risque d'être la crise. Hein. Mais la vraie crise. Hein, parce que là, ce serait vraiment dramatique. Parce que sans pétrole, il n'y a pas d'agriculture à l'heure actuelle. Et on aura du mal, ce qui est grave en fait, c'est qu'on aura du mal à faire chemin inverse. On ne peut pas passer toute l'agriculture française, pour rester en France, mais on pourrait étaler ça à la planète, on ne peut pas passer toute l'agriculture en bio à partir de demain. Ça ne fonctionnera pas. Parce qu'un agriculteur qui est en intense chimie depuis 15 ans, du jour au lendemain il essaye de passer en bio, ça va être fiasco, total. Parce que le sol est mort. Et les plantes, les vraies plantes, ont besoin de micro-organismes, ont besoin d'un sol vivant, ont besoin de vie aussi dans l'air. Et vous voyez bien que le miel bio, meilleur miel bio qui a été produit aujourd'hui en France, a été produit sur la mairie de Paris. Donc, ben oui, c'est assez parlant en fait. Les villes sont moins polluées que les campagnes. C'est quand même grave. Sauf qu'en campagne, en fait, la pollution est inodore, incolore, ne se voit pas, mais est bien présente. Alors qu'en ville, on voit tout de suite un gros nuage, donc on se dit, oulala, c'est hyper pollué. Oui, c'est hyper pollué, mais la campagne, c'est dramatiquement pire, malheureusement. Donc, en fait, ces plantes, les plantes pour énormément de végétaux, c'est quasiment 75% des nutriments qui sont pris dans l'air. Donc, c'est pas pour rien qu'on utilise des pulvérisations en permanence, c'est parce que les feuilles sont des micro-récepteurs, en fait, de tout ça. Donc, enfin, les plantes ont besoin d'énormément de vie autour d'elles pour pousser sainement. Donc c'est très grave ce qui se passe sur la planète en fait. Et c'est très dur de faire chemin, d'aller dans l'autre sens. C'est un énorme travail de rééducation. Donc on en parlait la dernière fois à la réunion des maraîchers, des futurs maraîchers producteurs de semences. Le travail de rééducation du consommateur, c'est le plus important. Parce que maintenant, vous voyez la bio, je ne sais pas qui mange bio ici, moi je mange bio, je fais mes courses à la Biocoop. Et on se rend compte, si on regarde les marques, etc., que telle marque, Bonne Terre, c'est Distriborg. Et Distriborg, c'est qui? C'est une énorme boîte américaine qui est financée par qui? Bah, par Microsoft, Google, Apple, etc., Syngenta, Monsanto, tous les mêmes. Donc c'est quasiment 50% de la bio qui est corrompue maintenant. Donc il y a un énorme travail de rééducation. Maintenant, quand vous allez voir votre maraîcher sur le marché, C'est ce que nous disait Mathieu la dernière fois. Vous lui demandez plus si ses légumes sont bio, vous lui demandez si c'est pas des hybrides F1. Parce que c'est ça, la base du problème. Parce qu'en bio, maintenant, c'est 90% d'hybrides F1. En bio. Les hybrides F1, qui est-ce qui les fait? Les melons, il y a 5 variétés à peu près en France, en bio. Quasiment toutes sont faites par Syngenta. Deux par Monsanto, il me semble, un truc comme ça, j'ai pas les chiffres en tête. Mais ça, c'est ce qu'on mange quand on mange bio. Donc maintenant, en fait, il y a une rééducation totale. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, bah oui, vous levez des yeux comme ça et tout le monde les lève, parce qu'en fait, on a l'impression que tout est devenu bio, tout est devenu vert, etc. Enfin, on n'a jamais été plus bas au niveau de l'écologie. L'agriculture bio est rentrée dans un calvaire de productivisme, encore plus parce qu'il faut alimenter les biocopes, il faut alimenter les centaines de magasins bio qui s'ouvrent partout en Europe, parce que ça attire un nouveau public, parce que, et en plus à des prix qui sont complètement hallucinants, pour pas de raison en fait, hein. Parce qu'il y a les intrants en moins en plus. C'est plus compliqué de créer c'est plus compliqué. Quand vous avez un agriculteur bio qui fait de l'agriculture à grande échelle, qui est au milieu d'un îlot d'agriculteurs conventionnels, les ravageurs, ils sont pas fous. Hein. Ils vont pas aller se faire gazer chez le voisin quand il y a à manger sain chez l'agriculteur bio. Donc c'est compliqué pour certains, c'est très compliqué de lancer cette dynamique-là. Parce qu'il y a beaucoup de monde à nourrir. Donc c'est pour ça qu'à Cocopelli, on essaye de réintroduire vraiment ces notions d'autonomie. Et pourquoi pas dans les villes? Vous imaginez à Paris, à Toulouse, à Lyon, les surfaces que vous avez sur les toits des immeubles. Si toutes ces surfaces étaient cultivées en jardin partagé, non seulement on augmenterait scientifiquement prouvé la durée de vie des immeubles de 20 ans, mais en plus, bon, on n'arriverait pas à nourrir tout Paris avec des jardins sur Paris. Hein. En plus, bon, c'est assez facile de dire ça, mais il faudrait l'amener quelque part la terre. Hein. On va avoir tendance à aller piller la Normandie et la Bretagne. Ah bah oui, mais... Mais oui, il y a les biocomposteurs, évidemment, mais tu t'imagines que la quantité nécessaire de biomasse, enfin, c'est énorme, si on veut vraiment... il va falloir composter. Et puis composter quoi? Attention, hein. Parce que si tu compostes des trucs qui viennent de l'Espagne ou d'Italie cultivés en intense chimie, la rémanence de certaines molécules, c'est 500 ans. Hein. Là, tu vas pouvoir composter avant qu'elles disparaissent. Donc c'est très compliqué tous ces aspects-là, parce que quand on croit avoir trouvé une solution, si on pousse un peu le vice, on se rend compte que la solution n'est pas du tout 100% efficace, quoi, hein, et qu'il y a encore un énorme travail à faire. Mais Paris, il faut s'imaginer qu'il y a encore 50 ans de ça, Paris c'était une énorme ceinture de maraîchers qui nourrissait toute la capitale, qui arrivait même à produire des melons en hiver sous cloche, qui avait des techniques maraîchères qui étaient fabuleuses, qui cultivaient sur des lits de crottin de cheval pour augmenter la chaleur, etc. On a perdu tout ça en un claquement de doigts. Et c'est ça qui est dramatique, en fait. Parce qu'on a vraiment perdu, c'est le savoir qu'on a perdu. Parce qu'il y a vraiment un énorme travail, voilà, pour... Pourquoi est-ce qu'on retourne la terre? On retourne la terre en permanence. Et les agriculteurs retournent la terre de plus en plus profondément. On descend des fois à 80 chercher. Et on remet ça sur... Enfin, qui a apporté ces notions-là? Non, mais j'exagère, pardon, mais... Qui a apporté ces notions? Les micro-organismes, on les remet en surface à griller.
Il
n'y
a même pas un peu ça. Oui, exagérez, monsieur.
Oui, j'exagère un peu, c'est vrai. Mais il n'y a pas tant que ça, mais maintenant, on a amené l'agriculture sans labour. On est d'accord, si c'est ça que vous me parlez, l'agriculture sans labour. Mais l'agriculture sans labour à grande échelle... Si c'est pour utiliser des quantités de Roundup derrière pour désherber, ça ne fonctionne pas. Et c'est ça que nous, on a pu voir un peu partout en France. C'est ces alternatives-là qu'on a amenées avec l'agriculture sans labour. Donc ce n'est pas une solution non plus. Donc oui, on retourne moins, vous avez raison, j'exagère. On a une fâcheuse tendance à exagérer un peu tout le temps. Mais on retourne la terre et les jardiniers amateurs de la même manière que les agriculteurs. On voit tous les jardiniers amateurs en permanence bêcher. Mais pourquoi est-ce qu'on bêche? Quelle est l'utilité de ce bêchage? Si vous faites des buts, que vous ramenez de la matière organique en permanence, comme ces fameux maraîchers autour de Paris faisaient, c'est-à-dire qu'ils cultivaient uniquement sur but surélevé. Et c'est ces techniques-là que nous, on apporte dans nos stages ou quand on lance des jardins un peu partout. C'est tout sur but, on ne l'apprend jamais. selon les sols, on va être obligé de passer une fois, évidemment. Hein. Là, on est à Camarade sur la ferme Gogobelli, c'est de l'argile. Il y a 50 d'argile, là, il va falloir trouver des solutions. Mais la solution, c'est à ce moment-là, on ne labourera même pas, on ne retournera même pas, on va réapporter de la matière organique en permanence. Et ça, vous faites ça 5 ans, après, vous pouvez rentrer le bras jusque-là dans vos buts sans jamais mettre un coup de pêche. Et c'est ces techniques-là qu'il faut ramener. Et elles sont applicables à grande échelle. Elles sont applicables, et on l'a vu dans un film qui s'appelle... le film de Terran, c'est quoi le nom? Le génie du sol vivant, un truc voilà, comme ça. Donc voilà, où il réapporte un peu. Donc, c'est pas encore suffisant à mes yeux en tout cas, mais c'est vrai que sur des grandes cultures, on voit des agriculteurs qui réamendent en fait leur champ avec la matière organique de leur culture. Ben oui, enfin ça paraît tellement logique. Il faut redonner à la terre ce qu'elle produit. Et il faut produire des plantes qui redonnent plus que ce qu'on prend. Et c'est ça l'aberration des hybrides F1, c'est qu'on apporte sans arrêt des variétés à courte paille. Chez Cocopelli, vous ne trouverez pas un seul tournesol qui ne dépasse pas les 1,50 m. Pourquoi? Parce qu'à la base, ça n'existe pas. Les tournesols, nos tournesols à graines, les titans, les mammouths, etc., c'est 3,50 m, 4 m ou plus. Et toute cette matière organique, après, elle revient à la terre quand on récolte. Parce qu'on ne la brûle pas, on la redonne au sol. Donc c'est ça qui est important, c'est cultiver des variétés comme le sorgho, comme la marante, ces variétés qui vont réamender en matière organique, mais en fibres. Il ne suffit pas de mettre un engrais vert, du trèfle ou de la luzerne. Ça c'est juste de l'azote qui va se décomposer en 3 secondes. Il faut rapporter du carbone, de la fibre, de la vraie biomasse. Et en fait, le drame de l'Inde, ça a été ça. Si l'Inde est un désert quasiment maintenant, et j'y ai vécu longtemps, je connais très bien ce sujet-là, c'est qu'on a réintroduit des riz minuscules qui montent à 30 cm. Et du coup, les vaches n'ont plus rien à manger. Tout le monde le sait, l'Inde est envahie de vaches. Les vaches n'ont plus rien à manger, donc elles rasent les prairies jusqu'au moins la moindre racine. Et tout ça s'est rentré dans un cercle de désertification. Et maintenant, il y a zéro biomasse. Le riz ne pousse qu'avec les bidons qui versent dans les rizières. Et en France, c'est la même situation. On a des blés tout petits, pourquoi? Parce que si vous essayez de faire un ancien blé qui va monter, un seigle ou un blé qui va monter à 1,50 m ou à 2 mètres, comme on en a, essayez de le cultiver dans des conditions d'agriculture conventionnelle, au premier coup de vent, il va être parfait, clair et net. Parce que le sol est surazoté, et c'est que l'azote qui fait pousser ces plantes. Si les plantes n'ont pas de fibres, si le système racinaire ne peut pas taler suffisamment et s'accrocher suffisamment au sol, oh, il y a tout qui est par terre. Et c'est ce qu'on voit, les magnifiques dessins qu'on voit dans les champs, là, c'est surplus d'azote. Un coup de vent qui passe, tout est par terre. Donc on est rentré dans ce circuit-là, et vu qu'on ne peut plus utiliser des variétés à grande paille, ben, on est obligé d'amender de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus d'azote. Donc les variétés rapetissent, enfin c'est un cercle sans fin. J'ai perdu le film.
Oui.
Oui, alors, bon, on va considérer que vous avez apporté la matière principale, la matière biologique principale, avec toutes les questions qu'elle soulève. Vous l'avez fait avec passion, avec peut-être un poil de parti pris, mais ça fait partie de votre détermination à faire avancer votre sujet. J'ai quelques amis dans la salle qui ont, que je connais, qui sont des agriculteurs très sérieux, qui ont un petit peu tempéré votre point de vue. Donc effectivement, il serait intéressant de pouvoir aller un peu plus loin là-dessus. Et maintenant, on pourrait aborder la phase de questions supplémentaires. Je pense, monsieur, vous avez une question. Alors, je ne sais pas si le fil va arriver.
Il n'arrivera pas au fond de la salle.
Voilà, mais on transmettra.
Pour en revenir au problème de la perte de maîtrise de la diversité des semences, bon, en 2014, on a une période charnière au niveau Europe avec la politique agricole commune, et on est à une période charnière nationale avec la loi d'avenir, qui est en cours de vote, mais il faudra attendre les arrêtés qui valideront Cocopelli et les autres associations et ONG qui travaillaient. Est-ce que vous suivez cette actualité, comment ça évolue le droit à produire sa propre semence, que ce soit auprès des agriculteurs? Est-ce qu'il y a un durcissement? Est-ce qu'il y a une mainmise des multinationales sur l'Europe et la France? Ou est-ce que ce droit à produire soi-même sa propre semence, qu'on soit professionnel ou amateur, comment ça va évoluer? votre sentiment à ce niveau-là.
Merci.
Dramatiquement mal, évidemment. Vous avez vu notre avocate Blanche, tout à l'heure sur le film. Elle a apporté 300 amendements, proposé 300 amendements. Non, pas 300, qu'est-ce que je dis ? 50, c'est vrai, c'est qu'on a apporté 300. Je n'ai pas su ces chiffres ou pas. Je dis peut-être une bêtise, ça a vérifié. L'ESA en face a apporté 1500 amendements. Donc tous nos amendements ont été évidemment tous refusés d'emblée. Tous les amendements de l'ESA ont été quasiment tous acceptés. Enfin, ça ne peut pas bien évoluer parce que c'est la mainmise de l'ESA. Vous avez vu le panneau la dernière fois, donc sur le film, nous on est allé manifester. C'était pas cette manifestation, c'était une autre, où on a essayé de rentrer dans le bâtiment, les flics nous ont empêchés d'entrer dans le bâtiment, dans un bâtiment public, hein, un hôtel. Enfin, oui, un hôtel, pardon, public, mais enfin, on nous a empêchés de rentrer. C'est l'ESA, European Seeds, merci, qui contrôle vraiment cet aspect-là en Europe. Par exemple, le 19 juillet 2012, quand Cocopelli, en fait, a été... Quand on a posé la question préjudicielle pour nos procès en cours à la Cour européenne, l'avocate générale nous donnait entièrement raison. Parce que c'était avant cette nouvelle loi de la PAC qui est en train d'arriver. Et Cocopelli, en fait, avant, qui n'est pas encore votée, elle est votée ou pas, je ne sais plus, enfin moi, là, je suis un peu perdu dans tout ça, mais Cocopelli, avant ça, était en fait totalement dans la législation européenne. En tout cas, au vu du libre-échange des marchandises en Europe. C'est un peu embrouillé même pour moi, j'avoue que c'est hyper compliqué la législation européenne. Enfin, l'avocate général nous donnait entièrement raison. Donc le juge, normalement, aurait dû suivre, comme c'est le cas dans 90% des cas. Les juges suivent toujours leur procureur général, normalement. Là, en l'occurrence, c'est pas ce qui s'est passé. Le juge a botté en touche et nous a dégagé suite à une lettre de l'ESA. Parce qu'en fait, l'ESA, en gros, a écrit au juge en disant que les enjeux, là, étaient bien plus importants que tout petit Cocopelli, et que si le juge donnait raison à Cocopelli dans ce dossier-là, ça allait mettre en l'air toute la suite de cette évolution de la PAC, parce que, enfin, par jurisprudence, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, ils ne pouvaient pas réintroduire certaines choses. Je suis désolé, c'est complètement embrouillé ce que je dis, parce que c'est hyper compliqué. Notre avocate est en train de terminer un livre de 350 pages sur la législation européenne au niveau de la semence. C'est hyper compliqué. Et on n'y comprend pas grand-chose. Ce qui est sûr, c'est que Cocopelli est dans l'illégalité. Donc, si on a une avocate qui fait du lobbying à Bruxelles en permanence pour essayer de défendre ce droit de ressemer librement, on le fait pour les copains. Parce que nous, de toute façon, on continuera ce qu'on fait, légal ou pas légal. On n'est pas déboulonnable. On a 8500 adhérents, on est partout sur la planète, on a énormément de restaurateurs qui nous commandent, on a toute une liste de mairies, dont Versailles, Tours, Nantes, etc. Enfin, énormément de gens commandent la Cocopelli, donc on n'est pas déboulonnable. Donc, après, c'est pas le cas de plein de petites associations, c'est ça qui est grave. Nous, comme tu disais, on a un pouvoir médiatique qui est tel. Par exemple, on a eu la répression des fraudes il y a un mois de ça. Dominique les a accueillis en leur disant, par pitié, attaquez-nous, ça nous fait une pub d'enfer. Donc, allez-y. Et oui. Donc nous, on a cette chance-là à Cocopelli de pouvoir lutter de cette manière. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Et on l'a vu avec le cas du maraîcher à la Velanée. Mais ça n'évolue pas dans le bon sens. Ça ne peut pas évoluer dans le bon sens parce que là, les multinationales sont en train de jouer leur dernière carte et se rendent compte aussi qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui veulent refaire leurs propres semences pour des questions strictement productives aussi. Hein. Une semence, si vous la refaites d'année en année, elle va s'adapter, elle va prendre dans ses gènes les informations de photopériode, de sol, de tout. Enfin donc, les multinationales, là, ont un peu les fouettes en fait. Hein. Tout simplement, hein. Parce que vous imaginez qu'on n'a pas de Cocopelli en permanence. Un Cocopelli sur le marché de la semence, on n'existe pas.
Et notre ministre
Lequel?
Stéphane Le Foll.
Stéphane Le Foll. C'est dit dans son nom. Hein. Que faire? Blanche demande des entretiens avec tous ces gens-là, enfin c'est son boulot, moi c'est un monde qui me dépasse totalement, j'ai jamais voté de ma vie, je ne comprends pas grand-chose à la politique. Bah, je sais pas, parce que disons que j'ai pas l'impression...
Ah oui, mais...
J'ai pas la... Non, mais...
Au lieu de faire le panégyrique de ceux qui se foutent de tout et d'être dans le relativisme absolu,
voter.
S'il fallait voter contre, contre des multinationales, je le ferais.
Quoi ça sert? Quoi ça sert?
Quoi ça sert?
L'embrouiller sous les
blancs. C'est un autre débat.
Autre débat.
Mais bon.
Autre débat.
Je suis désolé, j'ai tendance à m'écarter, c'est terrible. Hein.
On essaie de recentrer sur le sujet, et puis après, il est 9h30, donc d'ici quelques instants, lorsque les trois questions qui vont suivre ont été épuisées, madame, monsieur, on commence par la dame.
Alors justement, est-ce que ça ne serait pas le moment...
Ah, une autre là-bas, très bien.
Est-ce que ça ne serait pas le moment, puisque ça devient de plus en plus dangereux, de toute façon on s'en rend compte, hein, dans, partout, quoi. Est-ce que ça ne serait pas le moment que toutes les associations... que, enfin, je sais pas, une fédération, enfin, j'en sais rien, hein, je dis des mots comme ça, une collaboration étroite, enfin, un truc, un mouvement de lutte, quel que soit Cocopelli, que ça soit Biogerme, que ça soit Semences Paysannes, en fait, au bout d'un moment, il faut arriver à se coordonner et puis à se serrer les coudes parce qu'on a sacrément besoin, quoi.
Je vais répondre en deux parties juste à cette question. Premièrement, le 1, 2, 3 et 4 mai, normalement, si tout se passe bien au Mas d'Asile, on va organiser justement une rencontre pour essayer de fédérer plusieurs réseaux, mais ça c'est une idée toute nouvelle qui vient d'émerger, donc je m'avance un peu, normalement ça devrait se faire. Donc il y a l'Arche de Noé, il y a les Grecs, Pelliti, etc. Donc on va essayer de fédérer un peu ça. Après nous, on est un peu buté sur nos idées. Et on ne collaborera pas avec des gens qui inscrivent des variétés au catalogue officiel du GUIS. Si vous voulez, c'est tout sur Internet. Prenez le catalogue officiel et prenez les obtenteurs et vous serez très étonnés de voir certaines organisations qui ont déposé des variétés au catalogue. Pour faire une toute petite parenthèse, le catalogue officiel du GUIS a été créé sous Pétain, en 41, sous un régime d'occupation nazi. C'est une petite parenthèse pour vous mettre dans l'ambiance de la création de ce catalogue qui nous pourrit la vie aujourd'hui en 2014.
Chef, il y avait une question par ici, monsieur.
Ah, derrière.
Je reviens un peu sur ce que disait monsieur tout à l'heure, mais il était monté.
Pourriez-vous vous lever et parler fort, s'il vous plaît? Merci.
Je reviens sur ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est un peu dans le même esprit, qu'il disait qu'il faut voter. Je pense quand même que la même mise, comme vous le disiez, les multinationales, les grosses entreprises sur le compte des paysans aujourd'hui, la semence, on le connaît dans d'autres secteurs, hein, dans beaucoup de secteurs, beaucoup trop d'autres secteurs. À la base, c'est quand même, je pense, des erreurs de choix politiques. Je pense quand même que résoudre ces problèmes-là sont quand même en grande partie politique aussi. Alors, le problème aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure, si il est voté oui, c'est un problème existentiel, hein, en tout cas, moi, c'est ça aussi. Mais je pense quand même que sur ces problèmes-là, le choix. Le grand choix qui est voté aujourd'hui pour être fait par certaines personnes à un moment donné, mais ça se fait par les personnes qui ont voté. Qui malheureusement ont fait des choix, par exemple, faits par la com, mais n'empêche qu'au départ, c'est des choix politiques. Les EGM, c'est l'issue. Des choix politiques. Tout ça, c'est quand même très politique. Je pense quand même que la solution, la plus simple, la plus rapide, elle est quand même politique, malheureusement. Quand on pays, c'est très bien. Être tous. Conscient et le conscient c'est très bien aussi. Parce qu'on est aujourd'hui, dans un mois on sera certainement libre aussi. Moi je sais pas, j'étais dans une prison pour un petit moment. Et je pense que si on va pas plus vite et que le conscience, pierre pour les claques.
Mais quel parti politique? Qui?
Ah, voilà, ça,
parce que il faut se rendre compte qu'en fait n'importe quel parti politique, c'est des espèces de marionnettes qui sont dirigées comme ça, par qui? Par les multinationales. Et donc du coup, oui, on essaye tout le temps, mais bon, on joue quoi. On joue. La dernière fois, j'ai vu notre cher député ici en Ariège PS, Alain Fauré, qui ouvre des yeux comme ça, quand je lui ai dit ce que vous pays faisait, ces gens-là ne sont au courant de rien. Du tout. Donc comment faire pour prendre le poisson par ce côté-là de la queue? Parce que... Enfin, c'est un peu tapé dans l'eau, parce que malheureusement, ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont là pour être à la télé, pour faire des discours, pour machin.
C'est là où mais... je suis pas d'accord avec toi.
Dire
aujourd'hui que les
politiques
n'ont aucun pouvoir,
enfin,
moi je
sens un petit,
je crois.
Non,
pas pitié,
fais pas ça.
Non, mais c'est pas... Dire ça, je suis pas d'accord. Je pense que, à dire ça à des jeunes, aujourd'hui, dire, tu vas voter pour Pierre Bobby.
Alors, excusez-moi, là, je reprends un petit peu les choses. Hein. Nous ne sommes pas ici, comme je l'ai dit en début de réunion, pour faire de la politique.
Non, mais c'est pas la politique, ça n'a rien à voir la politique.
D'accord.
Je parle pas pour la partie politique.
J'ai bien compris.
Ce qui gouverne notre vie tous les jours aujourd'hui, c'est issu des rêves politiques. Et il y a un moment,
bien sûr.
Une solution politique, à mon avis, nous aurons
le prochain temps.
Il est certain.
Raison, mais en fait, ces décisions politiques ne sont en fait pas des décisions politiques, mais des décisions d'industriels. C'est ça qu'il faut, vraiment se rendre compte, que c'est les industriels qui maintiennent les partis politiques.
On ne va pas résoudre visuellement. Je suis désolé, là je pense que nous sortons en dehors de notre cadre. Je suis désolé là.
La biodiversité, ce n'est pas les petits oiseaux, c'est une question politique.
Mais bien sûr, une question politique dans le sens le plus général du terme. En ce terme-là, oui. Mais nous ne sommes pas ici pour faire de la politique politicienne. Vous êtes d'accord là-dessus? Donc, si ça ne vous dérange pas, nous allons clore là-dessus. Nous savons que nous avons tous... Sur ce sujet-là, nous sommes d'accord entre nous pour dire qu'il y a effectivement une responsabilité collective, quelles que soient nos opinions ou nos philosophies, c'est certain, mais on n'est pas là pour dire c'est telle ou telle personne. Voilà, ok. Cela étant posé, nous allons reprendre une question qu'il y a au fond et qui, s'il vous plaît, ne va pas aborder ce sujet-là. D'accord ?
C'est effectivement le cas ici en France, en Europe, mais on est énormément dépendant de l'agriculture américaine. Et aux États-Unis, on en est très loin de ce retour en arrière, on est très loin de réapporter ces connaissances-là, et malheureusement, toute notre viande, quasiment toute la viande qu'on mange, est dépendante d'une agriculture américaine. Et du coup, en fait, c'est pour ça où tout à l'heure je parlais de rééducation, parce qu'il faut vraiment être conscient de ça, qu'un kilo de viande de bœuf, c'est 18 litres d'eau, c'est tant de kilos de céréales, etc. Et cette céréale, et cette eau-là, est en fait à consommer à l'autre bout de la planète. Et ces techniques-là ne sont pas du tout en place là-bas. Donc...
Il doit y avoir une question ici, là.
Oui. Ayant fait connaissance avec Ocopoli pour préparer cette conférence, j'ai rencontré des gens passionnés, des gens investis totalement dans leur projet, et ça a été vraiment quelque chose de formidable. Mais on était et on reste dans la semence. Or, le problème de la biodiversité, pour moi, c'est un problème beaucoup plus vaste. La semence, ça n'est l'exemple. La biodiversité, c'est tout, y compris les cellules souches, les insectes, etc. Et ce qui est important dans la biodiversité, c'est cet équilibre. La maintenance de toutes ces souches, tous ces insectes, tous ces microbes, en fait, sur la Terre, on en fait partie, on est l'insecte dominant, et tout est en équilibre. Détruire cet équilibre quelque part, que ce soit sur les cellules souches, chez les insectes, dans la semence,
C'est un appauvrissement qui met notre planète en danger. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un biologiste. Il suffit de les écouter d'une manière générale. Et le marché de la semence est un marché profitable pour les entreprises, certaines entreprises. Il fut un temps, ce fut considéré comme un progrès. Je le rappelle quand même. Aujourd'hui, à force de voir les résultats, on se fait machine arrière. C'est un chemin qui est lent. Et bien sûr, ces entreprises, comme dans la matière du vivant, comme sur les cellules souches, etc., sur le génome humain, il y a des tentatives de breveter le génome humain. Bien là-dessus, ces entreprises tentent et continuent de tenter d'imposer leurs lois et de faire du profit. Et on est à cette intersection. Il faut se révolter, il faut lutter. Comment ? Cocopilli est l'exemple pour moi d'une passion. Ils agissent volontairement dans l'illégalité, ce qui leur fait une publicité fantastique. Sur le monde entier, effectivement, ils sont connus. Bon, ce qui est important...
On nous met dans l'illégalité, c'est important.
Mais vous avez choisi d'y rester. Et violemment. Oui, oui. Oui. De violemment au niveau du discours. Bon. Et donc, voilà, cette force est là. Donc, il faut bien qu'il y ait des personnes, des associations, voire des entreprises, qui gardent, qui ont ce rôle de conservatoire de la semence ancienne. Il y a ça, parce qu'elles ne sont pas nécessairement toutes utiles ou toutes productives dans notre monde, mais de les garder, de garder ce patrimoine génétique, et voire de l'utiliser dans certains cas. Voilà. Mon propre vécu à travers la préparation de cette conférence.
Moi, je pense qu'il y a, heureusement qu'il y a des associations qui s'occupent de ça, mais le plus important, c'est que chaque individu s'occupe de faire son jardin, de s'occuper comment il fait ses courses, à qui il donne son argent, quel genre de production il favorise, et que chacun prenne une partie en charge de ce qu'il fait, et ce sera beaucoup plus efficace qu'un vote, à mon avis. Voilà.
J'estime faire de mieux en mieux.
Oh, moi j'ai aucun doute là-dessus. Hein.
Voilà. Les sites.
Non, non, pas le doute à tout le monde. Mais pas sur votre production à vous. Il faut...
Mais on est nombreux comme moi.
Oui, je pense.
Je suis pas le seul.
Ici, oui.
Mais oui, mais c'est parlé globalement.
Il serait intéressant d'entendre notre agriculteur.
J'ai été très agressé par vos paroles, monsieur.
Agriculteur.
Donc, vous, monsieur, en tant qu'agriculteur, vous confirmez ce que dit mon ami ici, là.
Et au nom de nombreux agriculteurs.
D'accord, ok.
Est-ce que je peux répondre?
Oui, bien sûr, mais il est quand même intéressant d'entendre qu'une majorité d'agriculteurs ont fait machine arrière vis-à-vis de ce que vous disiez, monsieur, du grattage de terre. Il y a eu un retour et donc une amélioration.
C'est pas fini, et c'est très bien, et c'est très bien que les agriculteurs comme vous aillent dans le bon sens. Malheureusement, c'est pas le cas de la majorité des agriculteurs sur la planète. Deux constats sont simples. Le premier, c'est que c'est 33 000 personnes qui meurent de faim tous les jours sur cette planète, ce qui est un constat avéré et juste palpable, parce qu'ils sont là. Voilà, donc ça c'est premièrement. Et la courbe des gens qui sont dans la famille est exponentielle par rapport à la courbe des nouvelles technologies et des intrants, mais vous allez dans l'autre sens. Donc, très bien, c'est effectivement très bien, et il n'y a rien à redire là-dessus.
Et c'est pas facile.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas facile de faire chemin, de rebrousser chemin par rapport à ces techniques dans lesquelles on vous a engouffré. C'est ce que monsieur disait tout à l'heure aussi, c'est qu'effectivement il y a un retour, et même, il y a un retour global. Bravo, c'est très bien. Moi, j'ai voyagé aux États-Unis dans l'Iowa. C'est un État qui est aussi grand que la France. C'est des millions d'hectares de soja, de maïs, de tournesol. Je peux vous assurer que c'est des tracteurs dirigés par satellite avec tout un pataquès de bazar qui stérilise absolument tout. Ça, c'est un autre fait avéré. Vous n'êtes pas dans l'Iowa, vous êtes ici. On est où ?
Bravo.
Ça n'a rien à voir. Moi, quand je parle d'agriculture, j'essaye d'avoir une vision globale de la situation.
Vous voyez, alors, après, il y a une volonté politique, d'aller vers des meilleures choses, des meilleures pratiques agricoles. C'est très bien qu'on tire de moins en moins de produits toxiques, le moins possible.
Faux.
Bravo, mais si.
La courbe, elle est facile. Le tournage, c'est... Alors, non, il faut accorder au tonnage de pesticides de baisser. Ça, il faut l'accorder. Depuis 1999, on est passé de 172 000 tonnes de matière pure active à on doit être à peu près à 70 ou 80 000 tonnes. Mais la matière est 300 à 400 fois plus concentrée. Donc, où est la baisse? On est en perpétuelle augmentation. Ça, c'est le directeur de l'UIPP qui le dit. Hein.
La matière n'est pas plus concentrée, tout en
inverse. Oulala.
Ah oui.
Je suis strictement pas d'accord.
Donc nous avons des débat d'experts,
mais
là,
après,
on n'aura pas, et on a personne déterminé.
Non,
si,
dans les greniers d'un paysan d'il y a 20 ans, vous allez dans le local phyto aujourd'hui, n'importe qui, vous comparez les étiquettes, on verra.
Les étiquettes,
est capable de le faire.
Les étiquettes ne parlent pas de la concentration des... Non.
Elles parlent de quoi alors?
Non.
Et
des pourcentages de quoi? Et des pourcentages que vous devez utiliser? Oui, 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 on est totalement d'accord avec ça.
Ah, on est d'accord, quand même.
Prenez le gaucho et les régions. Connaissez le gaucho et les régions? Ben voilà, vous avez un exemple simple que tout le monde connaît.
Oui, alors.
Eh ben, une concentration beaucoup plus active sur le gaucho et les régions. Pourquoi est-ce qu'ils ont été interdits? Et qu'ils ont pris d'autres noms après? Pourquoi est-ce qu'ils ont été interdits ces deux pesticides? Si c'est pas pour une surconcentration systémique en plus. Je suis désolé, mais là sur les pesticides, vous allez prendre quelques experts comme Christian Vélo ou comme... Enfin, moi je suis pas expert, j'aurais du mal, et vous voyez bien, j'aurais du mal à vous expliquer scientifiquement, mais enfin, pour moi ça me paraît tellement le béaba, tout ça.
Ah, bon. Excusez-moi là.
Oui, après, je peux finir juste sur la question de monsieur là-bas.
Attendez. On va revenir là, parce que là, vous venez d'apporter une contradiction entre deux propos.
Que je ne pourrais pas développer, effectivement.
Non, c'est pas grave là, puisque vous avez parlé de ce qu'on a interdit, de deux produits à cause de la surconcentration, donc ça irait plutôt dans le bon sens, donc c'est un petit peu en contradiction. Mais c'est pas grave.
Du tout, parce qu'on les a utilisés pendant des années.
Mais non, mais...
Parce qu'on les a utilisés pendant des années.
Le numéro 3.
Hein?
Le numéro 3, c'est ça.
même, c'est un débat qu'on a depuis les abeilles, c'est un débat qu'on a depuis X années. Mais pourquoi est-ce que les abeilles continuent à mourir si le tonnage en pesticides ne fait que descendre et en plus la concentration? Je suis désolé, mais les insectes meurent par milliers. Et ils ne meurent pas juste parce qu'ils ont envie de mourir. Ils meurent parce qu'ils sont empoisonnés, strictement. Il faut être conscient de ça. Donc c'est très bien que vous alliez dans le bon sens, mais ce n'est pas le cas de la majorité de l'agriculture. Je suis désolé, l'agriculture conventionnelle s'engouffre dans toujours plus de technologie. Ça, c'est pour la... Je veux juste répondre au monsieur tout à l'heure par rapport au tonnage produit.
On est très produit, on sait ce qu'on fait, on ne fait pas n'importe quoi. Et là, on peut parler de concentration. On s'en fout de la concentration. Ce qu'il faut savoir, c'est combien de grammes on met à l'hectare dans la concentration du produit, on s'en fiche. Mais si, la concentration, ça ne veut rien dire. Vous dites n'importe quoi. C'est énervant, ça.
Non, c'est très important. J'ai encore un commentaire à apporter, en fait, parce que le tonnage à l'hectare, pour moi, et ça c'est ma vision des choses personnelles, c'est pas synonyme de rendement. Parce que vous prenez par exemple pour la tomate, parce que c'est le cas le plus flagrant. Vous prenez une tomate cultivée en monoculture avec des tonnes de flotte, vous la faites sécher et après vous comparez le tonnage à l'hectare avec un maraîcher bio. Et vous verrez que n'importe quel maraîcher bio a beaucoup plus de rendement que l'agriculture conventionnelle parce qu'il produit de la fibre, il produit à manger, il produit des nutriments et pas uniquement de l'eau. Alors moi quand on me pèse de l'eau, au tonnage à l'hectare, c'est une blague.
C'est vrai pour la viande.
Et c'est vrai pour la viande et c'est vrai pour tous les produits. Et c'est vrai pour tous les produits, parce que le blé, le maïs, c'est la même chose. C'est pas parce que c'est dur qu'il y a à manger dedans. On voit bien les baguettes, les pains blancs qu'on mange là tous les jours. Enfin, c'est du vide, quoi. C'est du vide, et pourtant c'est palpable, c'est bien là. Et bien sur les céréales, c'est la même chose. Une ancienne céréale, et c'est pas pour rien qu'elle contienne moins de gluten, parce qu'on parle de gluten en permanence, d'intolérance au gluten, c'est devenu vraiment un sujet important. Les anciennes variétés, elles nous en contiennent beaucoup moins, parce qu'en fait, les variétés récentes, c'est juste que du gluten. C'est du vide. Donc on parle de tonnage à l'hectare. La FAO nous dit qu'on va résolutionner la faim dans le monde avec des nouvelles technologies parce qu'on produit plus à l'hectare, mais on produit plus de vide. Le vide, c'est pas nourrissant, l'eau, c'est pas nourrissant. C'est très important de faire cette distinction.
Je pense qu'on peut dire bravo tout de même à ces agriculteurs.
Mais bien sûr.
Qui se sont rendus compte des dangers de cette agriculture intensive, mais c'est vrai qu'il faut rester conscient. Regardons la bosse, on peut s'inquiéter.
Ah, on peut,
mais
oui.
Bravo à ces
agriculteurs de
Haute-Garonne. Moi, je les félicite.
Si je peux aussi m'expliquer du fait qu'on soit assez agressif sur les pesticides et sur ces technologies-là, c'est qu'on a voyagé. On a voyagé en Afrique, on a vu les gens dévisagés, on a vu les enfants mourir, on a vu en Amérique latine les enfants de 3-4 ans agiter des drapeaux sous les avions pour que l'avion puisse viser, et puis après se décaler et reviser, se décaler. Donc ça, on l'a vu. Et ça, c'est sur cette planète, et ça se passe à l'heure actuelle. Regardez les photos, regardez les vidéos des enfants des viticulteurs en Rhône-Alpes, chez nous, et regardez le résultat chez les viticulteurs. Et on est en France. Et c'est pire dans les pays pauvres. Et nous, ça, on le voit parce qu'on voyage, parce qu'on a voyagé pour les films, etc. Donc c'est juste une réalité qu'on a palpée, qu'on ne vous montrera pas à la télé, mais nous, on l'a palpée. Et ça, dans les tripes, ça marque et ça rend agressif sur cette utilisation des pesticides, parce que c'est des produits qui sont dangereux. Et qui n'a pas dans son entourage, dans les milieux ruraux, qui ne connaît pas un agriculteur qui s'est intoxiqué parce que pour une fausse manip, pour qui?
Le taux de cancer est connu. Dans tous les villages, il y a des...
Mais tu t'imagines les cancers, la courbe des cancers qui grimpe, et on nous rabâche avec l'alcool et le tabac. Oui, c'est deux fléaux, l'alcool et le tabac. Mais le premier fléau, c'est l'alimentation. Mais oui, la première cause de cancer en France, c'est bien l'alimentation.
Si vous êtes d'accord, nous allons conclure peut-être maintenant, mais alors...
suis très inquiet sur la qualité de l'eau du robinet qui coule chez moi, qui provient d'une nappe phréatique très abondante, qui devrait nous fournir de l'eau d'excellente qualité depuis très longtemps, et qu'on est obligé, à la régie des eaux, de couper avec de l'eau du canal Saint-Martory pour avoir une teneur en nitrate et en pesticides acceptable.
C'est qu'en France, c'est important, on est là pour discuter, c'est important parce que les gens devront la savoir, mais je vous prête. En France, dans la moyenne des molécules actives recensées dans les lacs phréatiques, c'est là à 240 molécules, dont l'atrazine, qui est interdit depuis hyper longtemps et que vous retrouvez dans tous vos shampoings anti-poux. Donc, malheureusement, la qualité des eaux, c'est le premier problème de l'agriculture, et c'est le premier, pas que de l'agriculture d'ailleurs, c'est le premier problème, l'eau en général, c'est le premier problème de la planète, en fait, tout simplement. Et la qualité des eaux en France est dramatique. Et le pire, c'est en Bretagne, à Brest. Mais il faut se rendre compte qu'évidemment, les molécules qu'on utilise ont des rémanences qui vont à plusieurs centaines d'années, et les métabolites de ces molécules, une fois décomposées, ont des fois des rémanences de plusieurs milliers d'années. Et ça rentre dans un circuit fermé, hein, c'est facile, ça va dans les nappes phréatiques, ça va dans l'ambiné, ça va dans la rivière, ça va dans les mers, ça remonte et ça retombe. C'est pas pour me déprimer, mais c'est la réalité. Donc oui, la qualité des eaux, c'est...
Ok. Eh bien, nous allons conclure là, sur cette note un petit peu pessimiste. Alors, je vous propose de remercier grandement le soutien. Avec Fouque nous a présenté son point de vue, on a vu que sur certains moments, même si la vision planétaire à l'échelon local, ses propos ne sont pas tout à fait en phase, mais ce qui est important, c'est la prise de conscience, et encore un grand merci. J'aurais deux annonces à faire. Christian, est-ce que tu peux... Attends, je l'ai. Je l'ai là. Une annonce culturelle. Le 1er février à Carbonne, il y aura une conférence « Les horizons méditerranéens et atlantiques des draperies du Volvestre » par Jean-Michel Minovez. Et c'est une association du Volvestre, justement, patrimoine et paysage en Volvestre, qui l'organise, dont le 1er février à Carbonne. Et ensuite, une autre annonce pour une association du Volvestre également et du pays de Tolosère, qui aura son... Je ne me souviens plus du détail. Viens, Georges, s'il te plaît. Encore deux secondes, et on vous libère pour le coup de rouge ou de rosé à la fin, pour ceux qui ont le temps.
Cette association, le Théâtre s'envole, tient sa Assemblée Générale le 5 février à Rieux-Volvestre, et nous acceptons que viennent tous ceux qui sont sympathisants du développement culturel en Volvestre, et en particulier la renaissance du théâtre de Rieux.
Et dernière annonce pour le mercredi 26 février, la quatrième conférence Pupanvol sur l'Europe, pour faire vite, et qui va se passer à Rieux-Volvestre. Voilà. Eh bien, merci pour votre participation.